Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour. Née en 1948 à Varsovie, la cinéaste Agnieszka Holland a très rapidement vécu avec une certaine méfiance du régime communiste après que son père ait été retrouvé mort emprisonné lors d'une des premières vagues de purges antisémites après la Seconde Guerre mondiale. Elle quitte son pays en 1966 et vient étudier à Prague où elle commence des études de cinéma à la FAMU. En 1971, elle retourne en Pologne où elle rejoint un groupe de jeunes cinéastes autour d'Andrzej Wajda. Elle tourne ses premiers longs-métrages à la fin des années 70 et quitte à nouveau son pays peu avant l'instauration de la loi martiale en 1981 pour se rendre en France. La réalisatrice de Europa Europa, de Total Eclipse avec Leonardo DiCaprio ou plus récemment de Copying Beethoven est revenue sur ses années de jeune étudiante à Prague en 1968 au micro d'un clairvoyant.
J'ai étudié la mise en scène de cinéma dans l'école de cinéma de Prague. C'était une période très excitante aussi pour le cinéma tchèque et slovaque. Et quand les changements politiques ont commencé en Tchécoslovaquie, je ne l'ai pas vraiment pris comme quelque chose d'important parce que je pensais que l'art, c'est la chose la plus importante et ça qui se passe dans les milliers de dirigeants des partis communistes, c'est quelque chose qui ne touche pas vraiment la vie de gens ordinaires ou des artistes. Après quelques mois, j'ai remarqué que ces changements, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, que ça touche tous les domaines de la vie intellectuelle, artistique, sociale, que ça ouvre la possibilité de voir, de communiquer avec les idées, avec des besoins, des rêves de liberté qui, jusque-là, étaient complètement écrasés par le régime. Et en même temps, quand j'étais polonaise, en Pologne, le mouvement des étudiants était, en mars 68, était écrasé par le pouvoir sur place. Il y avait des liens de solidarité qui se sont manifestés parmi des étudiants tchèques. On a commencé à faire des choses. Tout ça était interrompu par l'intervention des pouvoirs des pays communistes, les Russes, les Polonais aussi, les Bulgares, je pense, les Hongrois. Les Allemands même, et comme une Polonaise, j'avais le sentiment de la honte et je voulais faire quelque chose pour prouver que nous, les Polonais, sont contre, que c'est le pouvoir qui le fait. D'ailleurs, les citoyens tchèques étaient très compréhensibles. Ils ont dit oui, bien sûr, si vous étiez à notre place et nous étions à votre place, on va se comporter dans la même façon. Et cette expérience de d'août 68 était tragique, mais en même temps très excitante. Moi, j'étais très jeune, j'étais intéressée par tout ce qui se passait autour de moi. Et c'était une expérience, je l'ai vécu comme une expérience vitale, comme une expérience existentielle, je peux dire. Mais j'ai compris très très vite, même si j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup de connaissances, de mécanismes, de l'histoire, j'ai compris très vite que c'est perdu, hein, que c'est une cause perdue. Et j'ai compris en écoutant Alexandre Dubček qui est venu de Moscou et qui, par la radio, a fait un discours qui est un discours, je l'ai vécu comme un discours de la capitulation. Et après, on avait fait encore pas mal de choses. On a fait une grève des étudiants en novembre 68. Mais j'ai compris que, d'une certaine façon, les gens ont capitulé. Pourtant, ça m'a surpris à quel point ils ont capitulé, à quel point ces mouvements qui étaient si larges, si nationaux, si profonds, si sincères, et comment ils ont abandonné tous les espoirs et tous les courages, sauf une groupe très, très, très limitée de dissidents, pour se battre pour le sens de sa vie. Et c'est une question qui n'était jamais répondue, qui n'était même pas répondue après le changement de régime, l'écrasement de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'écrasement des murs de Berlin, tout ça qui s'est passé dans les pays communistes en 89, m'a pas répondu à pourquoi et comment c'était possible de capituler si vite après le printemps de Prague.
Est-ce que vous avez gardé des contacts avec des gens qui ont ensuite participé au mouvement dissident.
Oui, j'ai gardé le contact pendant toutes les années 70 et aussi dans les années 80 avec une partie de mes amis qui, entre-temps, sont devenus les dissidents, les écrivains, les cinéastes ou les gens des autres métiers. J'ai gardé aussi le contact avec quelques collègues d'école de cinéma qui n'avaient rien à voir avec la dissidence, mais qui étaient un peu la victime de la normalisation parce qu'ils étaient incapables de faire des choses si intéressantes ou si ambitieuses comme s'il y avait une liberté normale. Les gens qui ont vécu dans les milieux de dissidents, ils étaient peut-être les plus heureux. Ils étaient persécutés, ils ne pouvaient pas travailler normalement, les enfants avaient des problèmes, ils ne pouvaient pas sortir, ils n'avaient pas de passeport, ou en sortant, ils avaient peur qu'ils soient incapables de revenir dans son pays. Ils étaient persécutés par la police dans les façons quotidiennes, mais en même temps, c'était un groupe de gens, des amis, des collaborateurs qui étaient soudés par une espèce de courage, la dignité, le sentiment qu'on fait des choses comme il faut. Et il faut dire qu'après, quand il a fallu d'échanger cette dissidence dans une politique normale et quotidienne, qu'ils ont dû de prendre le pouvoir et de prendre les responsabilités de pouvoir et le côté pratique de pouvoir, la frustration était plus grande que dans cette espèce de temps de la lutte, que dans certaines façons, il y a une nostalgie parmi ces gens pour ces périodes-là. Certaines nostalgies pour ces périodes quand les choses étaient pures, hein, quand les actions n'étaient pas compromises par le pouvoir, quoi.
Vous connaissez bien la France. Quel est votre regard sur les différentes interprétations françaises du 68 en Tchécoslovaquie? Est-ce que vous avez eu des fois des surprises de gens, de Français?
Tous les Français avec qui j'avais des contacts en France ont compris très bien ce qui s'est passé en 68. Même les gens qui avant étaient plutôt des côtés communistes. Je me souviens quand moi je me suis retrouvée en France en décembre 81 après l'état de guerre en Pologne. J'ai rencontré les gens comme Simon Signoret ou Ariane Nouchkine ou Yves Montand ou les gens comme ça qui étaient à l'époque avant 68 qui étaient plutôt les porte-parole, on peut dire, de communisme mondial dans la façon soviétique un peu, mais depuis ils ont vécu quand même de très très grands changements et aussi des gens, des étudiants qui étaient actifs dans les périodes de mai 68. On comprend aussi qu'on peut pas lier ces mouvements-là, même les trotskistes, avec le pouvoir soviétique. C'est-à-dire ça, je n'avais pas de problème de la compréhension. Par contre, c'était plus difficile pour les dissidents tchèques ou polonais de comprendre et de prendre en sérieux ces mouvements des étudiants français à 68. Ils ont pensé que dans certaines façons, c'était des enfants gâtés de la société riche. Et heureuse. Moi, je pensais toujours que c'est vraiment une question de la génération, c'est-à-dire que c'était presque génétiquement inscrit dans ma génération, que 68, c'était ce moment où il a fallu chercher sa propre identité, de faire la rupture avec la génération précédente. Et que c'était en même temps lié avec une très grande activité d'espoir qu'on peut trouver l'esthétique et les idées qui seront nouveaux et qui seront vraiment feront une rupture avec certains conservatismes ou communistes ou conservateurs. Bon, on a réussi en tout petit peu, mais on était incapable de vraiment faire une rupture durable, que ça se d'une certaine façon dilué dans le commercialisme ou dans la société de la consommation. Et il y a très peu de gens, de politiciens, de gens qui font la politique aujourd'hui, qui sont sortis de ces mouvements de 68, qui sont vraiment responsables et honnêtes. Il y en a, mais pas beaucoup. On n'a pas trouvé une idée qui pouvait être une idée rassembleur, par exemple pour les dirigeants de l'Union européenne.